Et oui, aujourd'hui, tout le bonheur est pour nous de recevoir en direct donc, du hall 2-2 du Mondial de l'Auto, l'écrivain Bernard Werber. Bonjour, bienvenue Bernard.
Bonjour.
C'est inédit pour vous cet univers, ce studio de radio dans un salon.
On a l'impression qu'on est dans un aquarium de poissons et à l'extérieur, on va nous donner la nourriture. C'est assez étrange. En même temps, on est dans une sorte de vaisseau spatial. C'est intéressant.
Voilà, et on salue donc tous les auditeurs d'RTL qui sont dans ce salon.
Alors, on prend en photo en permanence, il faut voir, c'est le truc bizarre.
Alors, je sais que vous vous déplacez dans une petite voiture à deux places, mais est-ce que vous êtes plutôt fan de voiture, vous, Bernard Werber ?
J'aime bien l'objet voiture, mais je ne suis pas fétichiste des belles voitures. Vous savez, comme il y a ces gens qui collectionnent les voitures anciennes et tout. Pour moi, ce que j'attends d'une voiture, c'est le confort, un système stéréo, c'est-à-dire qui me permet d'écouter la bonne musique. Oui. En fait, la voiture, pour moi, c'est un lieu où écouter la musique et accessoirement, où me reposer. Mais ce n'est pas du tout un truc pour faire de la vitesse ou pour frimer.
Alors, si on reste dans l'univers des voitures, on peut dire que vous êtes quand même une vraie Rolls pour votre éditeur, car vous vendez des millions de livres à travers le monde. Et dans votre dernier roman, Le Rire du Cyclope, chez Albin Michel. Il est question de rire, d'humour, de blagues et d'histoires drôles, et il paraît que vous adorez raconter des histoires drôles. Alors, si vous pouviez nous en raconter une petite pour débuter cette émission, ce serait super.
Alors, pas du tout, je suis vert de trouille à l'idée de raconter une blague, parce que la catastrophe avec les blagues, c'est que ça se peut qu'elle marche pas.
Bon,
néanmoins, j'ai promis que j'allais le faire, donc je le fais, je vais jusqu'au bout. Je m'avance comme sur un bateau de pirate là, sur la planche, et je me jette à l'eau. Bon, alors justement, on va faire un truc avec de l'eau. Oui. Zut, ça y est, j'ai foutu en l'air toute la blague. Non, c'est un locataire qui va voir son propriétaire qui lui dit: je vous fais venir parce qu'il y a un problème chez moi, c'est que il y a des souris. Le patron il dit, enfin le propriétaire il dit: non, il y a pas de souris. Vous croyez pas qu'il y a des souris? Alors il sort un petit morceau de fromage, il le jette par terre. À peine il l'a jeté, il y a une souris qui traverse à toute vitesse la pièce et qui arrache le petit morceau de fromage. Vous l'avez vu? Écoutez, j'ai rien vu de très probant. Il m'a pas l'air qu'il y ait des souris dans cet endroit. Alors le type il sort plusieurs petits morceaux de fromage, il en jette une vingtaine. À ce moment-là, il sort une souris, deux souris, trois souris, quatre souris, un poisson rouge, une souris, une souris, une souris. Elle dit: là, vous les avez vus, les souris? Elle fait: oui, j'ai vu les souris, mais j'ai vu aussi un poisson rouge. Comment ça se fait? Elle fait: d'abord, réglons les problèmes de souris, et après, on parlera de l'humidité.
Elle est très bonne. Allez, moi, j'ai une petite devinette pour vous. Qu'est-ce qui est vert et qui se balade au fond de la mer?
Alors, vert, en général, c'est des chewing-gums. Oh. C'est des grenouilles, c'est des scouts morts. Je connais aussi.
Un chou marin.
Oh,
et
ouais,
qu'est-ce qui
trouver.
Est vert et qui se balade au fond de la mer avec un essaim d'abeilles?
Je sais pas.
Un chou marin ruche. Allez. Les grosses têtes, c'est à 16h.
Vous les trouvez où, celle-là?
Je suis très
gisement.
Bien entourée. On est une équipe qui a beaucoup d'humour. Les grosses têtes, c'est à 16h, mais jusqu'à 16h, c'est tout le plaisir est pour vous. Sur RTL, en direct du Salon de l'Auto.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
Tout le plaisir est pour nous.
Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver depuis le studio de la première radio de France, RTL, installé Hall 2-2 au Mondial de l'Auto avec votre invité Bernard Werber. Alors Bernard Werber, sauf votre respect, pourrais-je dire que vous êtes quelqu'un de stupide?
Oui, c'était une chose intéressante, je me suis aperçu que la plupart des insultes étaient en fait des compliments cachés. Donc stupide, ouais. Ça veut dire qu'il s'étonne de tout, et je suis quelqu'un qui m'étonne de tout, enfin qui m'émerveille de tout.
Vous dites: je suis un vulgarisateur encyclopédique, et quelqu'un qui veut rendre compréhensible à n'importe qui, n'importe quelle question.
Oui, parce que je crois aussi que le savoir doit sortir des laboratoires et des chapelles et qu'il faut le rendre accessible et il faut être clair. Et c'est un combat qui a pas l'air du tout, enfin, qui a l'air simple, mais qui n'est pas du tout gagné, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent maintenir le savoir avec un vocabulaire, un ésotérisme, et la connaissance n'est pas assez bien diffusée en France. Donc j'étais journaliste scientifique pendant 7 ans et il me semble que je prolonge ce travail de diffusion de connaissances à travers mes œuvres romanesques.
Alors, votre dernier roman, c'est Le Rire du Cyclope. C'est une enquête policière sur fond de découvertes scientifiques justement inconnues. Et vous avez étudié cette criminologie à l'Institut de Criminologie de Toulouse. C'est quelque chose que vous vouliez faire tout petit, depuis toujours?
En fait, je m'intéressais au polar et je me suis dit faisons la criminologie et je vais vivre le polar. Mais après, je me suis aperçu que le polar lui-même était plus intéressant que le travail d'enquêteur. Donc rapidement, je me suis mis à écrire des polars. J'aime bien la structure du polar parce que c'est comme un problème. Il y a un meurtre au début, une enquête et au final, il faut trouver une fin surprenante. Et dans la réalité, souvent, les fins sont décevantes, c'est-à-dire que les assassins sont souvent des imbéciles. Mmh. Et dans mes romans, je peux inventer des sortes d'assassins un peu extraordinaires qui ont inventé une nouvelle technique pour tuer. Donc là, pour Le Rire du Cyclope, c'est comment tué par le rire. Mmh. Et ça, c'était un challenge compliqué.
Alors, vous écrivez en suivant un plan géométrique très précis, comme Agatha Christie, dont vous avez décrypté la construction des romans.
J'ai commencé par les structures d'Agatha Christie, parce que je me disais, c'est le système des fausses pistes, donc plusieurs suspects, plusieurs fausses pistes. C'est ce que vous avez aussi tous les soirs à la télévision, dans les séries justement de criminologues. Mais après, je me suis dit, on peut aller plus loin, on peut faire des récits parallèles, et on peut croiser les fausses pistes pour cacher la vraie piste au milieu. J'ai commencé à faire des dessins. Et c'était une manière un peu ésotérique d'attaquer la littérature. C'était créer la trajectoire de l'attention du lecteur pour arriver à le tenir en haleine. Parce que pour moi, un bon roman est un roman où on ne s'ennuie pas, et un roman où il y a cette chose, c'est-à-dire qu'on a envie de tourner les pages, et qu'au moment où ça s'arrête, il doit y avoir une petite douleur, on a envie d'y revenir. Mmh. Et ça, ça se travaille. C'est presque entre les techniques d'hypnose et les techniques de conteur de jadis, de raconteur du Moyen-Âge, par exemple.
Alors, c'est depuis l'âge de 16 ans que vous écrivez tous les jours de 8h à 12h30, comme Frédéric Dard, que vous admirez.
Oui, parce que Frédéric Dard, précisément, le premier auteur qui m'a fait rire. Et pour moi, l'art est un divertissement, la littérature est un divertissement, c'est pas une prise de tête. Mmh. Et quand j'ai lu Frédéric Dard, j'ai vu un virtuose, un type qui crée des personnages hyper vivants, Berruyer, San Antonio, tous les personnages qui sortaient de ses livres, ils me jaillissaient au visage. Et je me suis dit, voilà ce qui m'intéresse. J'étais pas émerveillé par tous ces romans introspectifs qui déjà occupaient les librairies à l'époque. C'était Frédéric Dard qui, en plus, m'a permis dans des moments de grande tristesse de retrouver la joie. Mmh. Et je crois qu'un livre est un objet de joie, est un objet qui est là pour vous aider, pour vous instruire et non pas pour vous snober.
Ça, on l'a bien compris, notamment avec
combat,
vos romans.
Mais c'est un combat qui a l'air très étrange en France et qui est d'autant plus visible qu'on est à l'étranger. On s'aperçoit que la littérature française joyeuse est plutôt vue, apprécié à l'étranger qu'en France même, où en France on est plutôt dans l'introspection triste. Et je trouve ça dommage, et c'est pour ça que j'aimerais ouvrir un contre-feu.
Alors, on vous a découvert grâce à vos fourmis, hein, que vous avez mis 6 ans, 7 ans, 6 ans à faire
12 éditer. Ans. Ah non, j'ai mis 6 ans à être édité, mais j'ai mis 12 ans à l'écrire. C'est-à-dire, j'ai commencé à 16 ans, j'ai terminé à 28 ans, mais j'ai commencé à chercher un éditeur à partir de l'âge de 22 ans. Et là, les éditeurs m'ont dit. Pourquoi parler des fourmis ? Quel intérêt des fourmis ? C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas, même dans l'objet livre parlant des fourmis, le moindre intérêt romanesque. C'est ça qui était intéressant comme challenge.
Mais pourtant, alors donc bien avant, à l'âge de 7 ans, vous aviez écrit Les aventures d'une puce. C'était une nouvelle de 10 pages qui n'a jamais été publiée. Ça doit valoir de l'or maintenant.
Je ne sais pas où elle est. Il faudrait peut-être chercher les boîtes de chaussures de ma maman qui gardait un peu mes rédactions. Oui.
Vous étiez branché bestiole déjà, les puces, les fourmis.
Bestiole et récits. En fait, mon problème, c'est que j'étais pas branché football. Or, dans les classes, on est jugé sur sa capacité à bien jouer au football. Donc, je me mettais en général dans les cages où je recevais tous les buts, en arrêtant pratiquement aucun. Je me rappelle d'avoir terminé la lecture des 10 petits nègres d'Agatha Christie dans une partie de football en étant gardien de but. Et j'en ai pas arrêté beaucoup. Mais ça m'a toujours semblé. Les histoires, raconter des histoires, l'activité que je faisais le mieux et qui amusait le plus mon entourage. Parce qu'au bout d'un moment, on m'a pardonné d'être mauvais joueur de football en me disant raconte-nous des histoires bizarres et s'amuser tout le monde.
Alors vous dites, enfant, je ne voulais pas créer de problème au monde adulte, ni me faire remarquer, je n'appartenais à aucune bande, je ne jouais donc pas au foot, vous jouiez en tout cas mal au foot. Alors vous qui ne vouliez pas vous faire remarquer, comment est-ce que vous vivez cette popularité ? Regardez, aujourd'hui, on est au salon de l'auto, il y a tous vos lecteurs qui sont là, qui sont venus vous voir.
Pour moi, il y a deux personnes en moi, il y a une forme de schizophrénie. Il y a le petit artisan qui est face à son ordinateur en train de créer les personnages et les faire bouger comme un marionnettiste. Et puis, il y a la personne qui vient faire la promo pour la chose qui a été faite au moment où j'ai créé les personnages. Et donc, c'est cette personne qui vous parle actuellement. Mais c'est un travail, c'est deux choses que je sépare complètement. Là, je fais juste. C'est comme si j'avais créé un petit bébé, ça s'appelle Le Rire du Cyclope, mon dernier livre. Mmh. Et là, il ne m'appartient plus. Mais je viens le présenter aux gens, j'ai envie de dire écoutez-le, et ça se peut qu'il vous apporte un émerveillement ou des surprises. Donc, je sépare bien ma vie publique et ma vie privée, et je sépare bien la création des livres et la promotion des livres.
Le discret sinon, populaire, oui.
Je veux dire, sinon, je crois que c'est un truc à devenir fou.
Oui, rendre dingue. Le discret et populaire, je disais donc Bernard Werber, et tout le monde. Mondial de l'auto et sur RTL avec vous jusqu'à 16h.
Tout le plaisir est pour nous
sur RTL.
Et nous sommes toujours au Mondial de l'Auto Hall 2-2 où tout le plaisir est pour nous de recevoir l'écrivain Bernard Werber. Alors, depuis presque une vingtaine d'années, Bernard, le 1er octobre de chaque année, vous publiez un roman. Pourquoi ce jour-là? Est-ce que le 1er octobre a quelque chose de particulier?
C'est tout proche de mon anniversaire et d'une, donc comme ça, normalement, je ne dois pas l'oublier.
C'est aujourd'hui votre anniversaire?
Non, c'est fin septembre.
D'accord.
Et ensuite, à un moment, il y a un de mes livres qui est sorti en octobre, je me suis dit, tiens, je vais fixer un rendez-vous annuel pour que les gens sachent que le livre est là, même si tous les médias ne se déchaînent pas dessus, ils sauront, il y a un rendez-vous annuel. Donc là, déjà, je peux dire, a priori, il y en aura un aussi en 2011, le 1er octobre 2011, et j'espère en le 1er octobre 2013. Mais 2012 et 2013, je vais essayer de créer une régularité. Je crois que la création et l'imagination ne sont pas bridées par la régularité, au contraire. C'est quand on se fixe des règles, à l'intérieur de ces règles, il est encore plus facile de délirer et d'aller loin.
Alors, le 1er octobre 2010, est sorti dans toutes les bonnes librairies votre nouvel opus intitulé donc Le rire du cyclope. C'est une enquête policière. Le cyclope est un célèbre humoriste à la mode qui meurt seul dans sa loge d'un fou rire. Alors, simple incident, accident cardiaque ou assassinat, les deux enquêteurs Isidore et Lucrèce se penchent sur l'assassinat. Ils vont découvrir en Bretagne une société secrète qui, depuis plus de 3000 ans, invente les fameuses blagues anonymes que tout le monde se raconte. Et cette société essaie d'influer sur le monde pour le rendre plus humain ou tout simplement plus drôle. Où est-ce que vous êtes allé chercher un truc pareil?
Je ne prends pas de substances hallucinogènes, mais je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. J'adore raconter des histoires. Vous savez, on est notre premier lecteur, donc j'essaie de me surprendre. Quand je fais un polar, j'essaie de trouver une fin qui m'étonne moi-même, et j'essaie de trouver des péripéties que n'ont pas fait les autres. Donc sur le thème de l'humour et du rire, jusque-là, soit il y avait des recueils de blagues, soit il y avait Bergson, l'analyse du rire, donc soit le truc un peu chiant, soit le truc un peu léger. Je me suis dit, à la structure du polar, je vais montrer que le rire est une matière de réflexion géniale, et qu'à partir du rire, on s'aperçoit qu'il y a un pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il y a une influence politique des comiques, il y a un pouvoir financier, et il y a des enjeux qui sont bien au-delà de la simple petite blague, et que cet art qu'on déconsidère parce que rire, ça nous semble une activité basse, est en fait une activité très élevée, et je dirais même les plus hautes spiritualités terminent dans le rire. Moi, j'avais rencontré en Inde des grands sages qui passaient leur temps à rigoler, on comprenait rien à ce qu'ils racontaient, ils faisaient que se marrer. Et ça m'a l'air un signe plutôt d'intelligence. Maintenant, il y a des enjeux actuellement, notamment en France, autour de l'humour qui sont énormes, et je voulais mettre ça en roman avec cette société secrète et cette enquête d'Isidore et Lucrèce.
Alors, c'est le premier roman interactif, parce que vous avez partagé l'humour en fait avec vos lecteurs et vous l'avez écrit en partie avec les internautes qui ont choisi le thème Là où naissent les blagues sur votre site internet.
Voilà, d'abord j'avais fait un recueil de nouvelles dans Paradis sur mesure dans lequel il y avait 17 nouvelles et l'une des préférées était Là où naissent les blagues. C'était une petite nouvelle de 60 pages et je me suis dit, tiens, on va la développer en 600 pages. Et donc, c'est eux qui ont choisi le thème. Mais après, je leur ai proposé carrément de m'envoyer ce qu'ils estimaient leur meilleure blague. Et j'ai reçu 60 000 blagues. On en a sélectionné, enfin, mon webmaster et moi, nous avons sélectionné 300.
Vous devez être vachement drôle dans les soirées maintenant.
Non, il y a les connaître, il y a les mémoriser, et après, il y a savoir les raconter. C'est trois arts différents. Des fois, il y en a qui savent les raconter, mais qui en connaissent très peu, mais qui savent vachement bien les raconter.
Donc, vous avez donc travaillé avec ces internautes qui vous ont envoyé leurs histoires.
Et c'est une matière, et après j'ai sélectionné celle qui correspondait aussi à mon intrigue, parce qu'il fallait que les blagues relancent un peu l'intrigue. Et donc au milieu de l'enquête policière d'Isidore et Lucrèce, tout d'un coup il y a un cut et puis il y a une petite blague qui illustre un peu, qui donne un nouvel angle sur l'histoire. C'était une manière aussi de créer une écriture qui ressemble un peu plus à du cinéma, du montage cinéma, c'est-à-dire il y a des coupes et il y a une sorte de diversion qui permet de relancer l'histoire.
Alors, plusieurs blagues de votre livre sont issues du coin blague de votre site, donc vous allez m'en dire quelques-unes encore. Vous en avez en tête comme ça ou pas? Parce qu'en fait, pendant les pubs, vous en racontez plein dans ce studio. Est-ce que vous en avez d'autres?
Vous en voulez une gentille ou une coquine?
Oh, bah une coquine.
Bon. Alors, c'est trois copines, puisqu'on parlait de la synchronicité de l'heure, je vous trouvais une autre synchronicité. C'est trois copines qui disent, je sais pas comment ça se fait, moi, quand je rentre des soirées, vraiment, j'ai passé une très bonne soirée, quand je jette ma veste, eh ben, comme par hasard, même si je jette de très loin, elle tombe sur le porte-manteau. Et la deuxième dit, eh ben, écoute, c'est extraordinaire, moi aussi, j'ai une synchronicité comme ça, c'est quand j'ai passé une très bonne soirée, mais vraiment une très bonne soirée, si je jette mon chapeau, il vole même de très loin et il tombe pile sur le porte-manteau aussi. Et la troisième a dit, ben moi c'est pareil, mais c'est encore plus fort. C'est quand j'ai passé vraiment une très 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 bonne soirée, si je sors ma culotte et que je la jette en l'air, eh ben elle reste collée au plafond.
Ce sont les blagues de Bernard Verbeek.
On m'avait autorisé à la dire, donc j'y vais. Tant pis, je vous fais baisser l'audimat, je vous en avertis.
Moi j'en ai une autre, elle va vous plaire aussi. C'est la maman qui dit à sa petite fille, si tu es sage, tu iras au paradis. Si tu n'es pas sage, tu iras en enfer. La petite fille demande à sa mère, qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque?
Voilà. Ah, attendez, j'en ai une autre comme ça. C'est deux petits bébés dans une pouponnière. Il y en a un qui dit, t'es un garçon ou t'es une fille? Elle fait, bah, je sais pas. Elle fait, bah, si, pour savoir, il suffit de baisser la couverture et comme ça, on saura. Puis il y a l'un des bébés qui baisse la couverture. Puis l'autre dit, ah, bah, t'as des chaussons bleus, t'es un garçon.
Alors à moi, et ce sera la dernière, c'est un chameau qui demande à un dromadaire comment ça va. Le chameau répond, ben je bosse. Et toi le dromadaire, ben je bosse. On est sur RTL et on rit bien aujourd'hui. On dirait du salon de l'auto et de la marmite.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
Tout le plaisir est pour nous.
Et nous sommes toujours en direct du studio RTL au Mondial de l'Auto avec notre invité Bernard Verbeek. Bernard, on dit souvent que pour conquérir une femme, il faut la faire rire. Donc visiblement, je pense que tout va très bien pour vous. Mais vous n'avez pas toujours été très à l'aise avec les filles. Jusqu'à 16 ans, quand une fille vous plaisait, vous rougissiez et vous étiez incapable de lui parler au point de vous évanouir.
Ça, c'est la mythologie qui est créée au fur et à mesure que l'artiste avance.
D'accord.
Je me rappelle pas, je sais pas comment cette information est arrivée. Non, quand j'étais petit, j'étais très timide, j'étais très introverti. Et de toute façon, quand on écrit, en général, c'est pas juste comme ça. Ouais, je vais me mettre à écrire, c'est parce que c'est un besoin. Je crois qu'à partir de l'âge de l'adolescence, pour moi, l'écriture était une manière de surmonter et ma timidité et mon rapport aux femmes, mon rapport aux autres, mon rapport au monde. C'est pour ça qu'on est motivé et qu'on écrit.
Parce que vous disiez, je reçois le monde d'une manière trop forte pour l'encaisser, écrire me protège.
Ah oui ?
Besoin d'une sorte de retraite par rapport... Vous trouvez que la vie, le monde est trop violent ?
Écrivain, c'est l'endroit fabuleux pour voir le monde de manière tranquille. Oui. Quand donc, j'étais journaliste à 7 ans, journaliste scientifique en entreprise, je ne voyais rien parce qu'on était tout le temps dans le tumulte, dans le combat, dans la concurrence, dans la lutte pour des petits territoires. On est épuisé, on ne voit rien. Oui. Écrivain, on règle son temps et on observe. Je me sens réellement un observateur du monde, mais un observateur maintenant tranquille et serein, et je ne suis plus timide.
Quel chanceux vous êtes. Alors pour rester dans le domaine féminin, vous pensez, comme Louis Aragon, que la femme est l'avenir de l'homme et vous rêvez d'un monde de femmes. Et dans Les Enfants d'Ève, vous imaginez que dans 200 ans, l'humanité sera entièrement féminine et que l'homme ne serait plus qu'un mythe. Ce serait comment un monde sans homme ?
En fait, j'utilise un gadget qui est l'observation des fourmis. Les fourmis, c'est un monde féminin. Donc, vu que les fourmis datent de 100 millions d'années, que nous sommes là que depuis 3 millions d'années, je me suis dit, si nous évoluons comme ont évolué ces insectes sociaux, ce sont les femmes qui devraient prendre le pouvoir. Mais actuellement, il y a une petite bizarrerie.
Ah bon,
laquelle ? C'est qu'il y a l'Inde, la Chine et beaucoup de pays d'Afrique dans lesquels, du fait de l'échographie, on repère les petites filles et on les avorte avant. Donc, et ça change complètement la donne, si bien qu'alors que normalement notre monde était en train de se féminiser, du fait de ce retour du machisme bizarre, traditionnel, archaïque, ça se peut que les filles soient en voie de disparition. En Chine notamment, je crois qu'ils ont des gros problèmes de fécondité du fait de la disparition des femmes.
Il ne faut surtout pas, justement. Ce serait trop triste. Mais un monde sans hommes, ce serait ennuyeux aussi. Hein. Malgré votre féminisme, vous n'avez jamais reçu le prix Femina. En revanche, vous avez reçu celui d'électrice de Elle, notamment.
Oui.
Et en fait, c'est...
Oui, ça m'a vraiment ouvert au public féminin parce que jusque-là, tout ce qui ressemble au fantastique ou au polar, et on se dit c'est un truc de garçon, ça sent la sueur, la testostérone. Et le prix d'actrice de Elle, qui est un prix honnête puisque c'est un prix d'électrice, d'ailleurs comme tous les prix que j'ai eus, c'est-à-dire des prix de lecteurs, donc des prix honnêtes, tout d'un coup a intrigué l'électrice de Elle et j'ai vu tout d'un coup quand j'ai des dédicaces mon public se féminiser à toute vitesse et maintenant je pense que j'ai 80% de lectrices et 20% de lecteurs, ce qui me ravit puisque de toute manière, il y a plus de lectrices que de lecteurs proportionnellement.
Pour vous, écrire un livre, c'est un peu comme un accouchement avec, après, sa petite déprime postnatale. Vous nous faites ça à chaque fois.
Des fois, je dis des bêtises dans les interviews, il faut m'excuser, ça devait être moi qui ai dû dire ça.
Non, mais il doit y avoir une sorte de
book blues. C'est comme un accouchement. Écrire un livre, ça me prend 9 mois. Oui. L'accouchement, surtout, j'ai une sorte de rejet, je me dis, et si le livre était très mauvais, si j'avais pondu une bouse, j'ai une sorte de grand doute. Et après, donc là, il y a, en effet, il y a une sorte de petite déprime où où en fait je me soigne en écrivant le suivant, ouais. Mais j'ai un rejet par rapport au livre précédent. Et c'est quand je commence à avoir les premiers feedbacks que les gens me disent comment ils ont vécu avec le livre, si ces feedbacks sont positifs. Et pour l'instant, sur Le Rire du Cyclope, ils sont plutôt positifs. Ouais. Là, je me dis, ah bah finalement, il n'est pas si mal que ça. Et maintenant, je le suis comme un enfant. Voyons comment il va grandir et comment il va être accueilli.
Donc après la période de rejet,
j'ai un énorme trac quand le livre sort, comme je pense à un artiste de théâtre qui monte sur scène. C'est jamais gagné, c'est jamais simple. Et puis, on peut se tromper. Il y a des livres, déjà, j'ai écrit quelques... Enfin, L'État intonote, par exemple, était un grand échec auprès du public. Donc, je ne peux pas à tous les coups réussir. Et ça fait partie du jeu.
Moi, j'avais adoré, en tout cas. En faisant une expérience sous hypnose, vous êtes remonté jusqu'à la période pré-utérine, c'est-à-dire dans le ventre de votre maman, et vous entendiez du piano car votre mère était pianiste. Donc, elle jouait bien du piano, ce qui est déjà assez rassurant. Oui. Mais c'est vrai, c'est quoi cette expérience ?
De toute façon, n'importe qui peut le faire. Vous fermez les yeux, vous essayez de vous rappeler de plus en plus en arrière dans votre vie. Il y a un moment où vous voyez apparaître des choses anciennes. Ça me passionnait l'hypnose, ça m'a passionné le retour dans les vies précédentes, et je suis allé retourner dans mes vies précédentes, mais en tant que romancier, pour moi c'est une source d'histoire. Et la chose la plus rigolote que j'avais trouvée, c'était ma vie en Atlantide, et j'en ai fait un récit qui s'appelait Un amour en Atlantide dans Paradis sur mesure. Mais c'était pendant une heure et demie, je pouvais décrire ce qu'on mangeait, le décor, les vêtements. J'étais très surpris de la masse de détails. Alors je sais pas que j'y crois ou j'y crois pas, je vois juste, il y a une histoire qui m'arrive, et cette histoire, je vous la raconte. Je suis pas dans vous devez le croire ou c'est vrai, je suis plutôt dans je vous le donne à réfléchir, et si ça rentre en résonance avec vos propres convictions, ben, prenez-le et faites-en quelque chose.
Vous qui vous intéressez beaucoup à la science, vous aimeriez qu'on arrive un jour à permettre aux hommes d'accoucher. C'est votre regret, ça ? Vous avez un fils et
Non, je pense que l'un des grands plaisirs qu'a l'être humain, l'une des grandes sensations du corps qu'a l'être humain, c'est réservé à la femme, c'est l'accouchement. Nous ne pourrons pas connaître cette chose-là. De même, il faut quand même savoir que l'orgasme féminin est 10 fois supérieur à l'orgasme masculin. Donc, c'est des raisons pour lesquelles, en fait, le combat est équilibré. Maintenant, il y a d'autres avantages à être un homme, d'autres inconvénients à être une femme et vice-versa. Oui. Mais c'est vrai que je pense que donner la vie à quelque chose, à un être, ça doit être une sensation extraordinaire, mais c'est vous, Flavie, qui pourrez mieux répondre à ça que moi.
La plus belle des sensations, effectivement.
J'ai été deux fois maman. Moi, j'ai assisté à l'accouchement de ma femme, mais je me disais, pourvu que tout se passe bien, j'étais pas dans qu'est-ce qu'elle ressent, j'étais dans gérons l'instant pour aider que tout se passe bien.
Bernard Werber est votre invité, c'est passionnant aujourd'hui sur RTL.
Tout le plaisir est pour nous
sur RTL. Flavie Flamand.
Plaisir est toujours pour nous de recevoir au studio RTL du Mondial de l'Auto Bernard Werber. Alors Bernard, vous avez beaucoup de succès, mais il y a deux choses que vous n'avez pas. C'est la mémoire et les loisirs. Je ne retiens rien. Quand j'étais petit, je notais tout et j'ai toujours continué. C'est vrai ? Vous aviez noté qu'on avait rendez-vous aujourd'hui ?
Oui, oui. J'ai toujours mon petit ordinateur à côté pour tout noter. Non, oui, j'ai pas de mémoire et je note tout. Oui. Et d'ailleurs, je mets parfois mes propres notes, ma propre documentation dans le livre. C'est pour ça que j'utilise, par exemple, j'ai mis les blagues directement dans le roman et je mettais à un moment l'encyclopédie sur relatif absolu, qui est ma documentation directement dans le roman. Oui, je note tout.
En tout cas, je rassure les auditeurs d'RTL, toutes les blagues sorties aujourd'hui par Bernard Werber sur votre antenne et qui vous ont fait rire n'étaient pas notées, hein, mais celle-ci, il s'en souvient. Vous notez aussi tous vos rêves. C'est la première chose que vous faites le matin au réveil ?
Parce que les rêves, c'est ce qui nous différencie les uns des autres, et c'est une sorte de petit cadeau, de petite histoire qu'on peut utiliser. D'ailleurs, quand je faisais des ateliers d'écriture, je disais la première chose à faire, mettez un petit carnet près de votre lit et notez votre rêve. Vous avez déjà une sorte de petit court-métrage que vous pouvez utiliser et qui n'appartient qu'à vous.
Est-ce que ces rêves, vous les étudiez aussi ?
Oui, j'essaie de comprendre le sens. J'en discute avec d'autres amis qui eux aussi font des rêves et on s'analyse mutuellement nos rêves.
Oh, des soirées rêves. De quoi est-ce que vous avez rêvé la nuit dernière ?
Alors, c'est assez étrange. J'ai rêvé qu'on m'a offert un fusil pour tirer de très très loin.
Ça craint, ça.
Et que je ne savais pas sur quoi tirer. Donc, je visais des boîtes de conserve très loin. Je me disais, quel intérêt de tirer ces boîtes de conserve ? En même temps, j'avais envie de voir si le fusil marchait.
D'accord. Voilà,
je n'ai pas d'autre interprétation. C'est peut-être sexuel, finalement.
Ça, je ne sais pas. Faudra qu'on organise une soirée rêve. Vous êtes un touche-à-tout. Vous écrivez des livres, du théâtre. Vous faites le comédien avec Claude Lelouch hein, dans le film Le Roman de Gare. Vous avez réalisé un film, Nos Amis les Terriens, un clip pour une chanson de la Douce Morane pour les âmes et pour les hommes. Et pour rester dans le domaine de la chanson, est-ce que vous vous rappelez ce que Serge Gainsbourg vous avait dit un jour ?
Oui. Mon premier interview était Serge Gainsbourg
vous
qui était passé à Toulouse. Voilà. Et il m'avait dit, méfie-toi J'étais simple journaliste et j'étais tout jeune. Il m'a dit, méfie-toi du masque. J'ai créé un masque, c'est Gainsbourg et Gainsbourg. Et maintenant, le masque est devenu tellement fort qu'il est collé à ma peau et que je ne peux plus l'arracher. Mmh. Et il m'a dit, plus tard, dans ta vie, ne fais pas de masque, présente-toi le visage nu pour ne pas avoir ce problème entre ce qui apparaît aux autres et ce que tu es vraiment. Et j'ai vraiment écouté ce conseil, c'est-à-dire tant pis, je prends le risque de montrer tel que je suis, mais je me suis pas fabriqué un personnage exprès pour les médias.
C'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir ce recul dont vous nous parliez tout à l'heure par rapport à votre notoriété.
De pas être cinglé et de ne pas me prendre trop au sérieux, ce qui est le drame de beaucoup de gens dans mon métier.
Généralement, vous écrivez un roman d'un premier jet, puis vous en écrivez ensuite une vingtaine de versions. Oui. Ça a été le cas pour Le Rire du Cyclope ?
Oui, Le Rire du Cyclope, j'ai 15 versions, c'est-à-dire j'ai 15 romans avec les mêmes héros et le même principe qui est peut-on mourir de rire ? Mmh. Mais j'ai écrit d'autres intrigues avec d'autres fins. Et vous savez, c'est un peu comme les peintres qui font plusieurs tableaux pour trouver le bon. Maintenant, je pense que ça sera amusant pour une sorte d'archéologue de la littérature qui voudra relire toutes les versions pour voir pourquoi j'ai avancé dans cette direction. Mais au final, il me semble que celle qui est sortie est celle qui est la plus extraordinaire et la plus détonnante. J'ai un souci, j'ai une angoisse quand j'écris, c'est que pourvu que les gens, au moment où ils arrivent à la fin, soient sciés, soient complètement étonnés, qu'il y ait cet effet grande blague de tout le roman, mais qu'ils ne puissent pas prévoir la fin, qu'ils ne puissent pas anticiper la surprise finale. Pour moi, un bon livre, c'est comme un tour de magie. Il doit y avoir une épiphanie, une surprise. Et c'est ça qui me fait que je réécris les livres. Je veux que cette surprise soit très très forte.
Le magicien Bernard Werber est avec nous aujourd'hui sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Tout le plaisir est pour nous.
Tout le plaisir est pour nous aujourd'hui d'être avec Bernard Werber. Alors Bernard, comme pour chacun de nos invités, je vais maintenant vous demander de laisser un message sur le répondeur d'une personnalité que vous avez connue ou pas, que vous admirez. En tout cas, quelqu'un à qui vous avez envie de rendre hommage et de laisser un message. Quand je vous l'ai proposé, vous m'avez répondu Frédéric Dard.
Oui, parce qu'on l'avait évoqué, que je me suis dit que c'est réellement un personnage qui m'a fasciné. Donc je voulais le remercier parce que
vous allez le faire en direct.
Ah,
là, ce répondeur, c'est après le bip.
Ok.
Bonjour. Laissez votre message après le bip.
Alors, Frédéric Dard, je sais que tu es déjà mort, donc je parle à ton fantôme ou à ton souvenir. Je voulais te remercier pour une soirée où je me trouvais, alors que j'étais en troisième, j'étais tout jeune et j'avais raté un examen important et j'étais rentré effondré chez moi et j'ai lu l'histoire de François Lambert-Hurier et alors que je pleurais encore, je me suis mis à rire et c'est grâce à un livre, donc c'est grâce à un pouvoir d'un écrivain et je voulais le remercier. Je vais te remercier.
On tutoie ses maîtres. Bernard Werber, c'est le message que vous avez donc laissé à Frédéric Dard. Bernard, je rappelle que votre nouveau roman, c'est Le Rire du Cyclope. Hein, ça vaut même des histoires drôles. Ouais. Il vient de sortir chez Albin Michel. Donc, les vendanges à Montmartre, puisque vous êtes aujourd'hui
le samedi parrain.
D'accord.
Ce samedi, on va essayer de récolter ce qui est récoltable sur cette petite colline qui produit l'unique vin parisien.
Oui. Et vous êtes parrain des vendanges.
Oui, j'aime bien faire vivre le quartier.
Merci beaucoup Bernard Werber, tout le plaisir a été pour nous. Vous avez fait vivre ce studio aujourd'hui en direct du salon de l'auto. C'est un plaisir de vous recevoir. Quant à nous, on se retrouve demain dans les studios, cette fois-ci de la rue Bayard à 15h, avec la comédienne Annie Cordy. Vous nous écouterez Bernard Werber?
Avec plaisir.
Hein, dans un instant, les grosses têtes, encore des histoires, comme ça on va rester sur RTL. Juste une dernière chose, vous n'en avez pas une dernière petite histoire drôle là comme ça? Il vous reste 15 secondes.
Non, vraiment. Là,
eh ben non, moi j'en ai une.
Allez-y.
Pourquoi lors d'un naufrage on dit les femmes et les enfants d'abord ?
Je sais pas.
Parce qu'après, les requins, ils n'ont plus faim. Allez, on vous embrasse.
Excellent.